les podcasts de Pharma Radio.
Les dossiers de la santé de Pharma Radio avec Pharmaceutique, le mensuel Santé, médicaments et industrie pharmaceutique. Raphaël Barthet.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro des dossiers de la santé consacré à la musique. La musique qui adoucit les mœurs, c'est bien connu, mais qui accompagne aussi les soins. Quels sont les principes de la musicothérapie, son histoire, ses bienfaits? Voilà, nous allons consacrer, vous l'avez compris, ce numéro à une thérapie non médicamenteuse en vogue depuis plusieurs années, pratiquée dans des établissements de soins, des services de psychiatrie, des maisons de retraite. Je reçois aujourd'hui trois invités, le docteur Mouloud Ounounouguen, neurochirurgien en Algérie, pianiste, compositeur, Véronique Béin-Carlier, musicothérapeute et formatrice en musicothérapie, et Lionel Coulanday, animateur radio. Grand Paris est son émission avec la muse du jour. Et comme c'est un homme de radio, il m'aidera à animer cette émission. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Et bonjour aussi.
Voilà, j'ai oublié de préciser, mais que vous êtes neurochirurgien en Algérie et que donc vous êtes avec nous en direct depuis l'Algérie. Alors, merci d'être sur Pharma Radio. On entend dire souvent que la musique soigne. Est-ce que c'est une idée reçue, puisqu'on peut peut-être dire qu'elle aide plutôt à faire corps avec la maladie, à mieux supporter la douleur?
Effectivement, au niveau de la musique, elle ne va pas soigner, mais par contre, elle va apporter un confort aux personnes qui sont souffrantes ou aux personnes qui sont handicapées. Elle va leur permettre de mieux vivre leur pathologie, leur maladie, et aussi leur permettre d'avoir une autonomie sur la façon de réagir par rapport aux autres. Voilà. Donc, elle ne va pas soigner. On précise bien, la musicothérapie ne soigne pas, mais elle accompagne les traitements médicaux qui vont être donnés par les médecins. Mais là, c'est plus Mouloud qui pourra en parler, le côté corps médical. Et effectivement, on travaille en parallèle avec tous les différents corps de métier médicaux et musicothérapie.
D'accord. Entendu. Donc, là, c'est... La question, on pourrait l'adresser directement à notre neurochirurgien. Alors, par quel mécanisme cela passe-t-il, s'il vous plaît?
Oui, alors la musique, c'est pas quelque chose d'abstrait. La musique, elle a une puissance immanente. La musique, c'est une compétence cognitive qui va mobiliser beaucoup de régions, beaucoup d'air de notre cerveau. La musique va moduler nos émotions. Elle est capable de nous rendre heureux, elle nous rend heureux. La molécule clé justement de cet état d'âme s'appelle la dopamine. C'est la clé de voûte un petit peu du mécanisme d'action de la musique, parce que la dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. Et donc ce neurotransmetteur, il est libéré par le cerveau quand il juge qu'une expérience, elle est bénéfique. C'est-à-dire, par exemple, quand on mange bien, quand on prend des psychotropes, ou bien quand nous écoutons de la musique qui nous plaît ou qui nous émeut, cette dopamine, elle est libérée dans notre sang. Là, qu'est-ce qui va se passer? Nos poils vont s'hérisser ça va commencer, la fameuse symphonie neuronale va commencer par donc un ensemble de noyaux qui se trouvent au niveau de notre cerveau, et ce système-là qui va régir cette émotion, ça s'appelle le système limbique. Donc il y a une interaction entre le langage musical avec le système limbique, et puis alors ce système limbique va secouer le système nerveux végétatif, c'est-à-dire que quand on voudra donner une tonalité affective à une émotion, c'est-à-dire qu'on soit heureux ou qu'on pleure à l'écoute d'une musique, c'est le système nerveux autonome qui va nous donner une tonalité affective. Et ça va se passer en fonction du stock mnésique, c'est-à-dire avec toutes nos expériences du passé, tout notre vécu, notre culture musicale, etc. Donc, parce qu'on ne rit pas et on ne pleure pas de la même façon, c'est-à-dire on pleure différemment en fonction de notre culture. Alors, concrètement, le système nerveux autonome, il va être secoué. C'est-à-dire quand la musique qu'on écoute va nous procurer un effet relaxant, un effet apaisant, Donc c'est la branche parasympathique qui est stimulée, et cette branche-là va donner comme conséquence à la stimulation une baisse de la fréquence cardiaque, une baisse de la fréquence respiratoire, on est détendu, et puis la musique, elle peut même intervenir dans la régulation de la glycémie au niveau justement de ce système parasympathique par stimulation des cellules de longue errance hépatique où la glycémie sera régulée. Donc cet état de relâchement va tamponner, si vous voulez, l'activité du système nerveux sympathique qui va s'allumer dans des situations d'angoisse ou de stress. Donc, globalement, c'est un petit peu ça l'idée, interaction musique, langage et cerveau.
Oui, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la musicothérapie est vraiment en prise directe avec le cerveau, qu'il y a différentes zones cérébrales qui sont activées.
Tout à fait. Tout à fait, le cerveau va recueillir des informations sensorielles, va intégrer ces informations sensorielles et il va les moduler et il va les traiter. Et puis il y aura un rendu émotionnel ou un rendu sur notre comportement et on va avoir cette sensation de bien-être par la dopamine, par les hormones de bien-être, la sérotonine, etc. Là, on est dans le cadre de la perception. Après, peut-être qu'on verra l'utilité de la pratique, ça on le verra peut-être après.
Oui, alors vous avez en partie répondu, Mouloud, mais il y a des paramètres différents. On imagine qu'il y a l'histoire du patient, sa réceptivité, son vécu personnel, et puis les caractéristiques de la musique choisie.
Tout à fait, tout à fait. Bon, on va pas procéder à la musicothérapie par une musique être uniciste. C'est-à-dire que quand vous choisissez une musique, c'est en fonction du vécu, c'est en fonction de la culture musicale, c'est en fonction des expériences, c'est en fonction du passé. Quand vous prenez quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, par exemple, il y a toujours un stock, il y a toujours une réserve cognitive neuronale qui persiste. Vous n'allez pas lui donner, par exemple, du jazz, alors que dans sa culture, il n'a jamais écouté de jazz. Il faut qu'il y ait une familiarité musicale, il faut qu'il y ait une reviviscence. Donc il faut bien évidemment qu'il y ait un questionnaire avant, voir quelles sont les musiques, quels sont les rythmes, quelles sont les tonalités, les harmonies qui créent chez lui un effet pour pouvoir avancer avec ses patients.
Véronique, vous voulez peut-être aussi voilà. Intervenir ?
Exactement, exactement. C'est vrai qu'effectivement, bon, comme je travaille avec Mouloud, on a effectivement un peu le même discours. Et dans le principe, on a le patient, on le voit avant, on discute avec lui, on voit ses origines, on voit quelles sont les musiques qu'il aimait quand il était plus jeune ou avant d'être handicapé ou malade ou peu importe. Enfin, on a besoin d'avoir quand même une petite connaissance dans l'historique de la personne pour justement faire des ateliers de musicothérapie qui soient constructifs et qui permettent de garder une certaine autonomie ou d'acquérir une certaine autonomie par la musicothérapie.
Lionel, okay.
Donc, justement, en musicothérapie, alors on apprend qu'il y a deux approches. Alors, la musicothérapie active et la musicothérapie passive. Alors, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ces deux notions, s'il vous plaît ?
Alors, au niveau du côté passif, on va dire qu'effectivement, on a certains patients, ou plus par rapport aux handicapés, je dirais, qui ne réagissent pas aussi rapidement que d'autres. Donc, ils vont simplement écouter de la musique, et le fait d'écouter la musique va leur permettre d'avoir un moment de bien-être, d'être en communication avec les autres, alors que la côté de musicothérapie active, là, ils vont effectivement avoir un instrument dans les mains où ils vont chanter, où ils vont vraiment être actifs, partenaires avec le musicothérapeute et on va avancer. Donc, au niveau du langage, par exemple, on va faire des vocabules, on va travailler sur les chuintements, sur les osottements, sur toute la mâchoire qui va permettre de parler. Et là, ils vont être vraiment actifs dans la façon de faire. Mais tout ça, ça dépend d'un patient à un autre. On va agir d'une façon ou d'une autre. On va vraiment, on peut pas dire que c'est dans une globalité, tout se passe comme ça. Comme l'expliquait très bien Mouloud, c'est tout un tas de choses qui se passent au niveau du cerveau qui permet une connexion. Mais après, le musicothérapeute va vraiment construire avec chaque personne individuellement au niveau de le faire avancer dans sa maladie ou dans le vieillissement ou dans le handicap.
Alors justement, une question peut-être pour notre neurochirurgien, ou je ne sais pas, Lionel, ou si notre neurochirurgien veut compléter cette réponse-là, mais je me demandais aussi si tout le monde est réceptif à la musique.
Bah écoutez, comme je vous l'ai dit, la musique, elle peut susciter en nous donc une réactivité à condition que dans notre culture, nous avons des repères temporels de cette musique. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, pour qu'une musique soit réceptive, il faut d'abord qu'on puisse aimer cette musique. D'accord ? Il faut que la musique qu'on nous passe, qu'on nous propose, il faut qu'elle suscite en nous quelque chose. Alors, mais c'est vrai que la question est bien posée parce que dans la vie, il y a une anomalie qui est intéressante de connaître, qu'on appelle l'amusie. Il y a certaines personnes qui ont des troubles de la reconnaissance, de la perception du sens musical. Ça existe, c'est une anomalie qui peut être, qui représente à peu près 5% de la population. Concrètement, c'est quoi cette musique, cette amusie, pardon, privative, bien sûr. C'est des gens donc qui ont des difficultés pour reconnaître un sens tonal ou une rythme, la mélodie avec ses hauteurs. Donc c'est une affection qui peut être acquise des suites d'un traumatisme crânien par exemple, ou bien d'une lésion vasculaire, d'un AVC par exemple, et puis subitement ces gens vont ne plus avoir cette capacité de reconnaissance et de perception musicale. Donc vous voyez, quand vous avez des gens qui ont cette amusie, vous pouvez pas pratiquer chez eux la musicothérapie parce que elle peut toucher la mélodie, elle peut toucher le rythme, elle peut toucher, donc ils seront plus réceptifs. À titre anecdotique, pour illustrer un petit peu ces cas d'amusie, il y a quelqu'un.
Vous allez garder cette anecdote justement. vous restez avec nous parce que nous allons marquer une courte pause, pas de musique, mais d'information, et nous revenons dans un tout petit instant pour une deuxième partie.
Les dossiers de la santé.
Les dossiers de la santé de Pharma Radio avec Pharmaceutique, le mensuel Santé, médicaments et industrie pharmaceutique. Raphaël Barthet.
Nous sommes toujours en compagnie de trois invités que tout relie à la musique. Le docteur Mouloudou Nouguen, neurochirurgien en Algérie, pianiste-compositeur. Véronique Béin-Carlier, musicothérapeute et formatrice en musicothérapie. Et Lionel Coulanday, animateur Radio Grand Paris et musicien aussi. Alors, docteur Nouguen, nous étions en train de parler d'un cas illustratif pour illustrer cette question, justement, on va dire, est-ce que tout le monde est réceptif à la musique ?
Oui, alors je vous évoquais l'amusie au rythme, dans le cadre d'amusie au rythme, c'est-à-dire la personne qui est atteinte confond les pas de danse. Imaginez-vous, par exemple, les mouvements d'une valse à trois temps, par exemple, sont assimilés à ceux d'un reggae. Donc, le cas illustratif de cette anomalie concerne Che Guevara, qui ne pouvait distinguer un foxtrot, le rythme foxtrot, d'un mambo. Donc, quand il invitait une dame à danser, donc il avait besoin d'un aide pour battre discrètement la musique avec sa main sur la table. Donc ça c'est pour un petit peu illustrer que la musique, elle peut toucher aussi bien la mélodie, le rythme, les hauteurs, etc.
Oui, c'est effectivement... Lionel, vous aviez d'autres questions à poser peut-être à Véronique ?
Oui, bien sûr. Ça peut concerner aussi Monsieur Nouguen. Alors, est-ce que toutes les formes de musique peuvent-elles être utilisées, ou est-ce qu'il y en a que l'on peut complètement proscrire ? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui écouterait du hard rock ou du métal, on se dirait, bah non, là, on n'utilise pas ce type de musique ?
Alors, oui. J'en profite, je prends 6 secondes la parole. Alors, effectivement, il y a certaines musiques qu'on va pouvoir utiliser beaucoup de musique, mais il y a certaines musiques qui vont être beaucoup plus sensibles au niveau des patients ou au niveau des personnes handicapées. Je pense par exemple les autistes qui ont vraiment une fragilité, une sensibilité auditive. Et effectivement, si on leur met des musiques style hard rock qui sont vraiment très, très violentes au niveau volume sonore, au niveau rythmique, par rapport aux patients, ça va être compliqué. Quand on travaille effectivement avec des personnes autistes, je vais plutôt avoir tendance à leur mettre des musiques qui vont être plus douces, plus calmes, et surtout avec un volume sonore qui est très très faible. Souvent, c'est la question que je pose, c'est est-ce que ça n'est pas trop fort ? Est-ce que je ne joue pas trop fort avec l'instrument ? Et après, effectivement, au niveau de la personne handicapée, par exemple, autiste, je vais lui donner un instrument de musique et là, elle-même, elle va me faire un rythme qui peut être d'un volume très faible à un volume très fort. Mais étant donné qu'elle va ajuster son geste à l'écoute, elle peut monter dans un volume très très fort. Donc c'est pour ça qu'on a effectivement toutes sortes. Et puis après, effectivement, en fonction des origines des uns et des autres, moi, je sais que je voyage partout dans le monde et donc je leur apporte des musiques qui viennent de partout. Ça permet effectivement d'avoir une ouverture sur le monde musical et en même temps, on peut avancer et leur faire ouvrir un champ de connaissances et d'apprécier plus tel type ou tel type. Donc, des fois, on pourrait dire quelqu'un qui est, par exemple, d'Amérique latine, va apprécier la musique d'Amérique latine parce que c'est dans ses us et coutumes et usages, mais par contre, elle va aussi apprécier la musique qui vient d'Asie, qui va être avec une tonalité complètement différente, avec des quarts de notes et ainsi de suite. Voilà, donc c'est pour ça que toutes sortes de musiques, à partir du moment où on apprend aux uns aux autres, on peut faire écouter à tout le monde.
Et, oui. Et il y a une grande variété.
Exactement.
Alors peut-être pour en revenir un peu au cadre formel, parce que finalement là vous nous avez expliqué les principes, les modalités de fonctionnement. Déjà depuis quand est-ce que c'est pratiqué la musicothérapie ?
En fait depuis la nuit des temps les gens écoutent la musique. Et après, effectivement, on va dire dans les pays occidentaux, alors ça a beaucoup commencé sur le Canada, Mouloud pourra compléter avec moi, mais ça fait une quarantaine d'années et ça s'est déplacé gentiment sur les pays occidentaux. Et là, moi, ça fait une trentaine d'années que je pratique ici en France. C'est encore très méconnu parce qu'à chaque fois que j'en parle, c'est nouveau ça, mais non, ça existe et ça s'est bien fait. Donc, voilà. Mais c'est la musique, on ne pense pas forcément, mais la musique, avant que ce ne soit noté avec le terme thérapie, était déjà
l'utilisait, nous, déjà, sans avoir peut-être de pathologie, entre guillemets, naturellement.
Exactement. Avec les jeunes enfants, par exemple, on va avoir beaucoup de choses que l'on va apprendre sur les gestes du quotidien, simplement par des comptines, par des chansons à gestes. Et là, effectivement, avant même de parler de musicothérapie, on était dans la musique avec l'enfant.
Oui. Docteur Rounougen, c'est la même chose en Algérie. Est-ce que ça existe aussi depuis longtemps
Non, ça n'existe pas depuis longtemps. La musicothérapie est très peu pratiquée, malheureusement, en Algérie. Il y a des associations, il y a des centres. Mais ça commence, ces dernières années, ça commence à prendre un petit peu son essor. Mais dans l'histoire, la musicothérapie a existé déjà au 9e siècle, hein, parce que Avicenne avait déjà préconisé des hôpitaux, des unités où l'on distillait de la musique pour un petit peu calmer les états neuro-psychiques. Voilà. Mais au fait, pour revenir à la question que vous avez posée à Véronique sur la musicothérapie, elle est en train de prendre un petit peu son essor maintenant. On essaye de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau lors d'une pratique musicale ou lors d'un exercice musical. Avec l'avènement de l'IRM fonctionnel, maintenant on peut voir quelles sont les structures qui interviennent quand on pratique un instrument, hein. Et puis par exemple quand vous jouez d'une guitare, vous avez à voir la région motrice du cerveau qui va s'allumer parce qu'il y a un apport de glucose et de sucre, donc de sucre dans cette région, donc les cortex cérébral moteur et auditif, ils vont s'allumer. Donc l'utilité de la musicothérapie, c'est que ces pratiques-là musicales vont s'accompagner justement par un rehaussement des fonctions cognitives qu'on pourra justement utiliser à des fins thérapeutiques. C'est ça un petit peu le fonctionnement. Ceux qui apprennent de la musique, ceux qui font de la musique vont bénéficier d'une stimulation d'autres compétences par effet de transfert. Et donc il y aura un mécanisme d'encodage dans le cerveau, c'est-à-dire des capacités d'acquérir de nouvelles informations, et ces informations-là vont provenir de nos différents sens et ils vont être stockés dans notre mémoire. Par exemple, le chant, il va stimuler les différentes parties du langage au sein de notre cerveau, et donc il y aura une connectivité entre les zones donc productrices de la parole et les zones de compréhension, c'est-à-dire le Broca et le Wernicke, et ces faisceaux-là sont très importants à connaître parce que c'est des gages d'un bon fonctionnement de structure langagière. Voilà un petit peu l'utilité et l'importance d'une pratique musicale.
Alors, il nous reste une toute petite minute. Lionel, vous voulez peut-être poser la dernière question à Véronique ?
Oui, j'ai pas
de soucis. Conclure ou le mot de la fin.
Juste savoir dans quel cadre on peut pratiquer la musicothérapie. Est-ce qu'il faut vraiment être dans un institut ou est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose, Véronique, là-dessus?
Oui, alors j'interviens aussi bien dans des instituts avec des personnes handicapées, style femme, style AIPUI, style MAS, enfin voilà, ce genre de mots. Effectivement, je pense que les pharmaciens doivent connaître, et ensuite j'interviens avec des personnes en particulier, parce que effectivement il y a des personnes qui sont aussi à domicile et qui ont besoin d'avoir un complément de bien-être, de mieux vivre dans l'autonomie, pas seulement avec les médicaments, mais aussi se sentir bien. Donc, dans tout cas de figure, moi, j'interviens avec toute personne.
Et bien,
milieu hospitalier, même pour les
opérations. Eh bien, écoutez, merci. Comme on a encore beaucoup de choses à se dire, ce que je vous propose, c'est de vous donner rendez-vous pour une seconde émission, un second dossier de la santé, qui sera consacré à ce sujet de la musicothérapie. Je vous remercie beaucoup, tous les trois, d'avoir été en notre compagnie sur Pharma Radio pour évoquer la musicothérapie.
Les dossiers de la santé. Pharma Radio, votre dose de podcast.